9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Nous allons parler d'histoire, d'Algérie, des femmes, d'Algérie, des femmes algériennes en France, et nous allons parler avec, au cours de cette émission, avec Nora Ben Mokhtar. Bonjour Nora Ben Mokhtar, bienvenue à Beurre FM.
Bonjour Samia, merci.
Vous êtes membre du collectif 17 octobre 61 et Monique Dantal est aussi dans le membre du collectif 17 octobre 61. Et nous allons parler tout au cours de cette émission de deux temps de l'histoire justement de l'Algérie, je viens de le dire. Nous allons parler du 17 octobre 61 auquel vous êtes attaché, vous Nora Ben Mokhtar, dans ce collectif, mais aussi dans votre histoire personnelle, familiale, et Monique Dantal, elle, est attachée dans son engagement politique aux côtés des Algériens dans la guerre de libération ici à Paris. Parler du 17 octobre 61 en cette période, c'est parler de la proposition de l'élue écologiste Samira Sebahi, qui était porteuse d'une volonté d'inscrire dans l'Assemblée nationale, puisqu'elle est députée, vert, Europe Écologie Les Verts, et elle avait fait le choix avec d'autres partis de gauche, et y compris des groupes de la majorité présidentielle, d'inscrire une reconnaissance du 17 octobre 61 à l'Assemblée nationale. Ça a été voté, ça a été donc validé et inscrit dans cette reconnaissance, avec ces termes-là justement qui étaient reconnaissance et condamnation du massacre des Algériens le 17 octobre 61. Alors, Nora Ben Mokhtar, peut-être que, en tant que membre du collectif 17 octobre 61 et de par votre histoire familiale engagée sur ce que fut le massacre des Algériens le 17 octobre 61 au sortir d'une manifestation pacifique, qu'est-ce que vous retenez de cette reconnaissance qui a été actée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale?
Alors, donc je parle au nom du collectif, enfin pas au nom du collectif, au nom de moi-même. Donc le collectif, on est plusieurs associations justement à militer dans ce collectif pour la reconnaissance du crime d'État. Donc la résolution du 28 mars effectivement est satisfaisante. On va dire que en ce qui me concerne, c'est un premier pas, mais ça ne reflète pas les revendications du collectif qui veulent quand même aller au bout en demandant la revendication du crime d'État, parce que il y a quand même eu un massacre d'Algériens, et nous, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus loin à travers la reconnaissance du crime d'État.
Alors, on avait entendu déjà il y a quelques pour les 60 ans du 17 octobre 61 en 2021 le président Macron sur le pont de Bezons, qui avait fait acte d'une minute de silence, de jeter une gerbe de fleurs sur ce pont de Bezons dans la Seine, avec un certain nombre de personnalités d'ailleurs qui étaient présentes. C'était déjà une petite avancée, disaient certains. Donc on avance petit à petit. L'exigence du collectif, c'est cette fermeté dont vous venez de parler.
Oui, effectivement, ça avance à petits pas, mais ça avancera et on continuera le combat. Au nom des Algériens, de cette émigration algérienne qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont lutté pour leur liberté. Et on ne peut pas laisser un massacre impuni qui a été quand même, c'est une répression sanglante et meurtrière envers les Algériens, qui a quand même été commis sous l'autorité du préfet Maurice Papon. Et donc l'État français doit prendre cette entière responsabilité envers ce massacre. Donc des centaines d'Algériens, je rappelle, parfois jetés dans la Seine, tués, des centaines de portées disparues aussi, pour que le lendemain on dise il y en avait à peine 10 ou entre 3 et 4. Et c'est vrai que tout au long de ces années, nos parents émigrés, c'est vrai que après l'indépendance n'ont pas su ou n'ont pas pu en parler. Et les générations d'après, nous en l'occurrence, voilà. Les enfants et
parce
les petits-enfants.
Vous l'avez su bien tard, la manifestation.
Absolument, voilà.
17 octobre, et vous la portez aujourd'hui.
Exactement, parce que à titre personnel, je n'étais pas née, mais mon père, ma famille, toute ma famille y était, ils n'en parlaient pas, et ça arrivait petit à petit. Et pour eux, du fait d'avoir vécu le colonialisme, je ne sais pas si il y avait la peur de cette violence qu'ils avaient subie du fait du colonialisme, mais ils n'étaient pas assez organisés ou conscientisés, je ne sais pas, parce que conscientiser c'est pas le mot, puisqu'ils l'étaient du fait d'être quand même ce jour-là au pont Saint-Michel, mais pas assez de force, comment dirais-je, pour pouvoir défendre leurs droits. Et nous maintenant, notre génération, on se bat et on se battra jusqu'au bout. Et si c'est pas nous, ça sera encore nos enfants, au nom de tous ces Algériens massacrés et tués au pont Saint-Michel.
Vous parlez avec émotion, puis à la mémoire, effectivement, vous l'avez dit, des parents, hein, des aînés qui ont manifesté ce 17 octobre 61, qui arrivaient de banlieue, qui arrivaient de leur bidonville ou de leurs hôtels meublés ou de que sais-je encore, de leurs habitats précaires, souvent d'ailleurs, et qui manifestaient pacifiquement, dignement, pour que le couvre-feu, puisqu'il s'agissait d'un couvre-feu qui leur était imposé, s'arrête, parce que d'abord, ce couvre-feu était injuste et raciste. C'était des travailleurs, ils pouvaient plus aller travailler puisqu'ils avaient un couvre-feu quand ils étaient d'équipe de nuit sur les usines Renault. On a eu de nombreux témoignages à Beurre FM d'anciens qui rappelaient aussi cette situation. Vous irez jusqu'au bout, vous venez de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez vraiment ce que soit nommé ce crime d'État, c'est ça jusqu'au bout.
Oui, absolument.
Il y a les archives aussi qui étaient une...
Oui, absolument. Il y a les archives justement qui doivent être ouvertes. C'est aussi une revendication du collectif. Et aussi que ce soit inscrit dans... Que ce massacre soit aussi inscrit dans les manuels scolaires pour justement...
Il commence à l'être,
petit pas aussi. Et effectivement, on se rend compte qu'il ne faut pas lâcher puisque, vous voyez, on a vu le président Macron qui, il y a 2 ans, à l'occasion des 60 ans, et ensuite là, il y aura la journée de commémoration.
C'est pas gagné la journée de commémoration, parce que ça n'a pas été acté encore.
Ah, tout à fait.
C'est la revendication.
La revendication pour l'instant, et donc il faut absolument continuer. Et je pense que dans le temps, avec l'ouverture des archives, l'État français sera bien obligé de reconnaître cette réalité.
On va écouter dans un instant Monique Dantal, qui va justement, elle aussi, de son regard en tant que Française, puisque depuis très longtemps, elle était militante au sein du PSU, le Parti Socialiste Unifié, qui aujourd'hui mène encore des réflexions, d'ailleurs, très intéressantes autour du 17 octobre 61 et autour de la guerre d'Algérie, avec des rencontres publiques. On va l'écouter dans un instant. On va se retrouver, je rappelle que vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre et nous parlons du 17 octobre 61 avec cette nouvelle proposition de l'élu écologiste Sabrina Sebahi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale par la gauche et aussi par une partie de la majorité présidentielle, ce qui a fait évidemment hurler la droite et l'extrême droite pour ne pas les nommer. Je vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que vous êtes toujours sur Beurre FM ici. Voix au chapitre et nous avons évoqué avec Nora Ben Mokhtar du collectif 17 octobre 61 cette proposition qui avait été faite par l'élu écologiste Sabrina Sebahi autour de la reconnaissance du 17 octobre 61 et nous avons échangé autour du constat que cette loi était certes, pour certains, d'aucuns diront c'est une avancée, d'autres diront que bon, c'est pas complet, il y a une exigence du collectif de dénonciation de ce qu'était ce massacre du 17 octobre 61 de crimes d'État. Monique Dantal, vous êtes, je vais vous présenter, vous êtes aussi au collectif 17 octobre 61 et vous êtes, faites partie de l'ITS, l'Institut des Tribunes Socialistes, auquel nous allons parler longuement avec une belle initiative que vous nous proposez autour du film documentaire de Bouchra Azouz. Mais peut-être avant d'entrer dans les Algériennes en France, l'héritage, parler de cette loi adoptée à l'Assemblée nationale tout récemment.
Oui. En ce qui me concerne, bon, je trouve que cette loi, bon, elle est vraiment à minima, quoi. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a eu les massacres, Mais ça, bon, on se bat quand même depuis plus de 30 ans chaque année avec le rassemblement sur le pont Saint-Michel. Et la question des massacres, elle est dénoncée depuis très longtemps, y compris par des historiens et y compris par des films qui ont été faits par rapport à ça. Donc là-dessus, même les personnes qui ne sont pas des militants et des militantes comme nous, on peut considérer que c'est vraiment à minima, quoi. Voilà. On aurait espéré, on aurait souhaité qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on reconnaisse ce que le collectif 17 octobre demande depuis longtemps, la reconnaissance du crime d'État. Voilà, la reconnaissance du crime d'État, parce que le crime d'État, il est lié à la colonisation française et que, bon, d'une certaine manière, en reconnaissant des massacres, on ne reconnaît pas le rôle de la France par rapport à la colonisation, quoi. Et puis, d'autre part, bon, comment aujourd'hui être simplement, justement, sur une reconnaissance à minima des massacres, alors que le président de la République, il a été il y a 2 ans, au moment du 17 octobre, déjà sur le pont où lui-même, sa présence symbolique montrait qu'il était, en disons, peut-être un peu en osmose avec l'action qu'on pouvait mener. Donc, je trouve que, je ne sais même pas si c'est vraiment des petits pas, quoi. Moi, je trouve qu'on est vraiment à minima énormément et que d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment une avancée. Voilà.
Alors, il faut dire que dans la proposition de loi de l'élu écologiste et de la gauche et de certains députés de la majorité présidentielle, la proposition, elle était plus longue. Hein, il y avait une volonté de commémoration d'une journée. Et là, c'est passé à l'as.
Oui, tout à fait. Oui, ben ça va avec le fait que si on ne reconnaît pas le crime d'État, on n'a pas besoin de commémorer quoi que ce soit. Des massacres, on ne les commémore pas. Hein, donc, il n'y a rien de surprenant à ça, quoi. Bon, l'intérêt, en fait, de la proposition de l'élu verte, c'est quand même de montrer que ça ne passe pas par perte et profit. C'est-à-dire qu'on continue à en parler et que ça continue à faire débat à l'Assemblée nationale entre les élus, mais aussi qu'il faut poursuivre cette possibilité de conscientisation de l'ensemble du peuple français ou des personnes qui habitent en France sur ce qui s'est passé sur notre histoire. Voilà.
Ben vous avez raison de souligner, puisque Nora Ben Mokhtar le rappelait aussi en ces termes-là, qu'il fallait continuer de se battre, de conscientiser, et aussi votre collectif est pour beaucoup dans cette volonté de reconnaissance et de nommer cette histoire du 17 octobre 61 autour de cette question du crime d'État.
Il n'y a pas que la reconnaissance du crime d'État dans la revendication. Il y a le fait d'ouvrir les archives complètement, il y a le fait de que ce soit discuté dans les écoles, que ce soit inscrit dans les manuels scolaires. Donc voilà, donc c'est cet ensemble-là. Mais bon, voilà, hein, les choses se font petit à petit, progressivement, et on voit bien qu'à l'heure actuelle, c'est quand même très difficile d'obtenir des avancées sur tout ça sans une réelle mobilisation d'ampleur.
Monique Dantal, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois avec vous, hein, et avec Nora Ben Mokhtar autour de ce 17 octobre 61, avec... vos histoires singulières chacune, vous êtes française, elle est d'origine algérienne, Nora Ben Mokhtar, elle a parlé tout à l'heure avec émotion de l'importance que revêt ce 17 octobre 61. On va aborder maintenant un rendez-vous que vous nous proposez à l'ITS, qui est le film « Les Algériennes en France » de Bouchra Azzouz, qui sur plusieurs générations va rencontrer des femmes algériennes en France, y compris dans cette période du 17 octobre 61. Et comme vous êtes des femmes, Bouchra Azzouz a fait un film autour de 2 portraits de femmes. Je voulais qu'on parle de ce film parce que vous allez le projeter en public le samedi 13 avril à l'ITS, à l'Institut de Tribune Socialiste, et qui se trouve 40 rue de Malte à Paris dans le 11e, c'est au métro République, et c'est à 14h30. Ce film sera suivi d'un débat où j'aurai le plaisir d'aller participer à ce débat parce que ça m'intéresse bien d'en être et de voir ce film Les Algériennes en France. Pourquoi le choix de ce film Les Algériennes en France ? Nora ?
À toi.
Nora Ben Mokhtar.
Oui, parce que dans un premier temps, à l'ITS, au Maltais Rouge, donc on avait voulu mettre le cinéma algérien à l'honneur. Et du coup, c'est vrai que les femmes algériennes, on ne parle pas beaucoup d'elles. Et donc, c'était l'occasion de mettre en avant ces femmes algériennes qui étaient militantes, toujours debout, courageuses. Et donc, du coup, elles ne pliaient devant rien. Et elles ont été partie prenante, justement, de la révolution algérienne. Et donc c'est pour ça qu'on voulait les mettre en avant, et surtout aussi de l'émigration algérienne. Comment ont vécu cette émigration les femmes algériennes et les générations d'après.
On va développer ce film dans la troisième partie de l'émission. Je me tourne vers vous, Monique Dantal, toujours à propos de ces femmes algériennes dans le film et puis dans votre vie, parce qu'elles ont aussi, des femmes algériennes ont aussi été importantes dans votre vie, dans votre engagement, puisque vous étiez toujours sur ce 17 octobre 61 aussi très engagée. Vous avez rencontré des femmes algériennes et vous êtes tous les ans au rendez-vous sur le pont Saint-Michel. Donc, voyez bien un peu ce que porte l'histoire de l'immigration des femmes algériennes en France.
Oui. Alors, c'est à plusieurs titres, c'est à plusieurs titres en réalité que on pourrait parler justement de mon implication par rapport à l'indépendance de l'Algérie et à la solidarité avec les femmes algériennes. D'une part, parce que j'ai eu des activités finalement, effectivement, de femmes indépendantistes. Pas seulement d'ailleurs dans le cadre du Parti Socialiste Unifié, puisque en fait c'est au titre du PSU que j'ai commencé à prendre des contacts avec tout ce qui était l'organisation de manifestations anticolonialistes, demandant l'indépendance de l'Algérie, mais aussi parce que je cachais à cette époque des militants nationalistes algériens et que j'ai été amenée à avoir différentes activités de soutien au FLN algérien. C'est aussi parce que, le 17 octobre, c'est clair et net que nous avions comme consigne de ne pas être présentes. Hein. C'était une manifestation d'Algériens, qui étaient français évidemment à cette époque, et qui demandait l'indépendance, qui était organisée avec le FLN, qui était pacifique. Et on nous demandait simplement de regarder sur les trottoirs passer la manifestation. Mais dans cette manifestation, il y avait énormément de femmes, hein, de femmes avec des enfants. Enfin, la répression s'est exercée sur l'ensemble. En fait, par contre, à la manifestation qui a été organisée par les femmes, c'est-à-dire le 20 octobre, là, il y avait des consignes. Elle était aussi organisée par le FLN. Hein. Elle a été en partie proposée par le FLN. Elle a été très largement débordée de la consigne du FLN. Là, par contre, nous avions consigne d'y aller. Alors, moi, je n'y étais pas dedans complètement. J'étais aussi sur les côtés, en observatrice, parce que du fait même des activités, la consigne que j'avais, c'était de ne pas mettre en danger un certain nombre de choses que je faisais et indirectement les conséquences que ça pouvait avoir sur les personnes que je cachais. Donc, de fait, j'étais présente et j'étais observatrice. Moi, il m'a semblé que c'était très important. C'était très important parce que, comme toute manifestation de femmes, et là, on rejoint la question de l'analyse féministe des situations historiques, c'est que c'était un événement dans l'événement lui-même. Parce que ça a débordé complètement le FLN. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour les femmes qui étaient présentes, c'est que d'abord, premièrement, elles affichaient un mode d'organisation et d'expression qui était tout à fait nouveau. Hein. C'est-à-dire, il y avait des you-you, il y avait des drapeaux, il y avait de la joie, il y avait... c'était très très différent des autres manifestations. Je ne veux pas dire et minimiser ce que pouvaient être les autres manifestations indépendantistes, mais elles étaient beaucoup plus rigoristes, d'une certaine manière. Mais ça, par exemple, moi, ça a beaucoup joué dans ma manière de faire les apparitions des manifestations dans le mouvement féministe par la suite, hein, qui a été beaucoup plus tard. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, de part, elles se mobilisent contre le couvre-feu, elles se mobilisent pour demander l'indépendance, hein, puisqu'elles sont solidaires des revendications et des négociations qui se passaient à l'époque avec le GPRA. Hein, Donc, c'est très, très important de se rendre compte que, finalement, ces femmes, en se mobilisant, elles sortaient de l'ombre. Hein, et puis, par ailleurs, hein, tout à coup, les Français qui étaient autour découvraient des femmes qui se mobilisaient. Il n'y avait pas que des hommes algériens qui étaient des travailleurs. Et quand elles ont été arrêtées par la police et mises dans les cars, elles faisaient des signes. On voyait bien quand même, pour les personnes qui pouvaient s'interroger, les Français tout autour, qu'il se passait des choses. Et puis, elles ont débordé complètement, évidemment, l'apparition classique, quoi.
Alors justement, ces femmes, 60 ans après, puisqu'en 2021, Bouchra Azouz, une réalisatrice qui fait des documentaires souvent autour des questions des femmes, des droits des femmes, a choisi ce focus autour des Algériennes en France. Et certaines vont donc témoigner d'ailleurs dans son documentaire de leurs souvenirs, de leur mémoire autour de cette manifestation du 17 octobre 61. Il y a plusieurs générations, on l'a dit. Et je vous retrouve dans un instant. Monique et Nora, et vous allez nous parler un peu de ce que vous avez retenu de ce documentaire et nous donner envie aux auditeurs, auditrices d'aller le voir, puisqu'il s'agit de Les Algériennes en France, l'héritage. C'est un film, un documentaire qui sera programmé le samedi 13 avril à l'ITS, qui se trouve 40 rue de Malte à Paris dans le 11e. C'est au métro République. Et ce documentaire sera suivi d'un débat. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Voix au chapitre, poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Nora Ben Mokhtar du collectif 17 octobre 61 et Monique Dantal qui est aussi au collectif, qui est autrice aussi d'un livre très intéressant. On avait eu l'occasion de se voir à ce propos autour du féminisme justement. Le film de Bouchra Azouz, Les Algériennes en France, l'héritage, sera donc programmé à votre initiative le samedi 13 avril à l'ITS, qui se trouve 40 rue de Malte à Paris dans le 11e. C'est au métro République et c'est à 14h30. Vous nous dites de quoi il s'agit dans Les Algériennes, des portraits de femmes algériennes sur plusieurs générations. Vous les décrivez?
Effectivement, Samia, c'est un portrait de femmes sur trois générations. De l'avant-indépendance, pendant l'indépendance et l'après-indépendance. Et justement, c'est le portrait de quatre femmes, debout, courageuses, fortes, rebelles, qui ne se pliaient devant rien, quelles que soient les situations. Donc, elles ont milité, pour certaines, pour la guerre de l'indépendance en Algérie. Donc, elles ont milité en France. Elles racontent leur parcours à cette période-là et le contexte en France métropolitaine, comment ça se passait, la nostalgie aussi. Il y a aussi, pendant l'indépendance, après, il y a la génération des années 70, où il y a eu cette génération de femmes qui avaient milité aussi pour la marche. Ça, c'est plutôt après, pour l'égalité. Donc, ça aussi, c'est les mêmes témoignages. Il y a eu aussi sur les une femme de Paparki qui, justement, raconte l'accueil effroyable de la France envers cette communauté. Voilà, c'est tout un... C'est très, très intéressant parce que on voit aussi l'ancienne et la nouvelle émigration. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le témoignage, justement, tel que à l'école, comment que ça se passait, les mamans qui, d'un sens, voulaient garder la culture pour ne pas perdre cette identité, mais quelque part, elles étaient battantes, elles voulaient aussi s'émanciper, et cette double, comment que s'est construit cette double identité, justement, et voilà, c'était très, très intéressant.
Des parcours, effectivement, mmh. d'une génération à une autre, mais c'est qui ont ça. En commun ce lien avec l'Algérie, cette
Exactement.
Envie mmh. du pays, à la fois dans la nostalgie pour la plus ancienne, mais aussi mmh. pour les nouvelles générations, ces allers-retours avec le oui. pays d'origine, parce que on grandit avec ce... Mmh.
Et pour certaines qui ont milité, justement, pour l'indépendance de l'Algérie, mais en France, sujet auquel on ne parle pas beaucoup, justement, parce que lors des événements du 17 et du 20 octobre, on les a quand même relayés à un militantisme secondaire. Elles n'ont pas été mises en avant, mais c'est aussi ça qui a un peu bousculé l'indépendance, puisqu'après, on a eu le 11 décembre à Alger, les manifestations, et après, qui a débouché aussi sur les accords d'Évian. Donc, ça a un petit peu... ça fait bouger les choses. Et ces femmes algériennes, on n'a pas parlé d'elles, de leur combat. Elles étaient aussi porteuses de valises, comme Monique aussi, comme les femmes aussi françaises. Elles ont vendu leur or aussi pour le FLN, pour participer. Elles ont fait tout un tas de choses en France, parce que c'était quand même la Fédération de France. était membre active et c'est elle aussi qui a permis de financer cette révolution.
Les bijoux.
Les bijoux, hein. Voilà, c'était le, à l'époque, c'était très important pour une femme algérienne d'avoir ces bijoux-là. Et ensuite, il y a eu les nouvelles générations qui sont nées en France, qui n'ont pas connu l'Algérie, mais qui, ces témoins, ont vécu l'Algérie avec le souvenir des parents. Et donc après, il y a le départ en Algérie après l'indépendance pour certaines, parfois des combats, parfois des déceptions, notamment le code de la famille. Et voilà, donc moi, je ne vais pas en dire plus.
Et ah oui, non, faut inviter les vraiment, auditeurs, auditrices
exactement,
à venir le voir.
Le coup de
non, mais c'est bien
de venir
d'avoir ce que
voir.
Vous dites là, Dora, oui. Ben Mokhtar, par rapport aux différentes générations qui ont différentes oui. histoires et le socle, oui. c'est ce lien avec, avec l'Algérie. On a, voilà. on a grandi avec cela.
Voilà. Et le combat, justement, jusqu'à maintenant, hein, ces femmes algériennes continuent à lutter contre le racisme, les discriminations et voilà, c'est débattante.
Monique Dantal, vous voulez ajouter par rapport à ce film?
Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est très important de venir voir ce film et puis d'être présente et présent pour participer au débat qui s'ensuivra, parce que c'est un film qui fait vraiment mémoire et qui s'inscrit dans des transmissions, quoi. C'est-à-dire que à la fois elles font le lien, toutes ces personnes qui sont dans le film, entre ce qui s'est passé justement dans les manifestations du 20 octobre, hein, 1961. Ce qui a été la suite de tout le travail générationnel par la suite, c'est-à-dire les filles de cette femme, de ces femmes, ont beaucoup travaillé aussi par rapport au code de l'infamie, hein, c'est-à-dire ce code de la famille
devenait code de l'infamie,
voilà, devenu
dans le
code
combat.
De l'infamie, comme les féministes algériennes et les femmes algériennes l'ont précisé, et comme les femmes françaises féministes du mouvement féministe en France les ont soutenues pendant toute cette période de lutte. Mais c'est très important à la fois parce que c'est un relais générationnel qu'on comprend. C'est-à-dire, on comprend bien pour quelles raisons, à un moment donné, les filles de ces femmes qui ont grandi dans des conditions très, très différentes, pas obligatoirement d'ailleurs avec la transmission de ce passé, hein, ou autrement que uniquement, par exemple, l'histoire du passé officiel, l'histoire officielle du passé qui était transmise par le gouvernement algérien. Bon, voilà. Mais c'est très, très différent. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir... de la part de la génération qui a suivi, des témoignages. Or, les témoignages, ils ont sauté une génération. C'est plutôt la génération des petits-enfants, des petites filles, par exemple, qui l'ont repris. On le voit bien, par exemple, à l'heure actuelle, dans la littérature française, où il y a de plus en plus de femmes d'origine maghrébine française qui ont écrit sur tout ça. D'ailleurs, on a fait une réunion à l'Institut Tribune Socialiste, justement, sur la littérature maghrébine, la littérature française d'origine maghrébine, qui était très, très intéressant. Donc, ces femmes, en plus de ça, qui sont prises entre différentes cultures, avec le retour au pays, hein, et le pays d'origine, qui n'est pas toujours aisé par rapport justement aux femmes. Et on voit bien que des questions à l'heure actuelle, qui sont très importantes de mon point de vue pour l'émancipation des femmes, ne sont pas reprises dans ce film. Et c'est un petit peu étonnant d'ailleurs que la réalisatrice, qui connaît bien les situations, ne l'ait pas repris, mais... Bon, on pourrait en discuter avec elle. C'est toute la question de la situation des femmes dans le cadre du regroupement familial, qui n'ont pas du tout les mêmes droits, ni que les hommes immigrés, hein, ni que leurs maris, ni que les femmes françaises. Donc, qui pose le problème de l'absence de statut pour ces femmes, qui les met dans une situation de fragilité extrême. Parce que
qu'elle est l'épouse d'eux, elle n'est pas
voilà,
à part entière.
Et que les codes de statut personnel des pays d'origine sont reconnus dans les conventions bilatérales comme exerçant la loi par rapport à la femme qui, étant en France sans statut, se retrouve complètement sous la coupe du statut de leur mari. Bon, donc de fait, ça aboutit à des situations qu'on a beaucoup dénoncées dans le mouvement féministe, entre les associations Femmes Solidaires, le réseau féministe Rupture, avec Appel, hein, l'association des femmes algériennes. Il y a eu beaucoup de luttes qui ont été menées pour essayer d'obtenir quelque chose. Marie-Georges Buffet avait présenté un projet de loi qui n'a pas été du tout, qui n'a même pas pu aller jusqu'à l'Assemblée véritablement pour être voté. Donc, on est dans des situations où le droit est incomplet. Hein. Le droit est incomplet. Bientôt, il va y avoir par exemple, trois journées très importantes sur le droit de vote des résidents non communautaires, hein, le 26, 27 et 28 avril, où se pose la question de faire justice et de l'absence de discrimination faite à l'heure actuelle, puisque à partir du moment où les immigrés et les résidents immigrés en France travaillent, payent des impôts, etc., ils devraient avoir aussi le droit de vote, mais ça se pose de la même manière pour les femmes aussi, résidentes. Mmh. Eh bien, ces femmes-là, par exemple, même dans le cadre de cette nouvelle loi, ne pourraient pas voter. Donc, je trouve qu'il y a des luttes qui sont encore à mener, et peut-être que ça pourra faire aussi l'objet de la discussion dans la réunion qui est organisée bientôt à l'Institut Tribune Socialiste. Alors moi, je précise bien, à la fois je suis une militante féministe, tu l'as dit, depuis longtemps. Donc c'est en tant que militante féministe aussi que j'ai commencé à me mobiliser dans le cadre du collectif 17 octobre 61, mais aussi après, évidemment, avec je représente l'Institut Tribune Socialiste, dont je suis une des vice-présidentes. Mais il est évident que la question essentielle à relever, qui est celle de la place des femmes aujourd'hui dans tous les changements de société, sont des questions absolument importantes et incontournables pour arriver à changer le monde.
Et cette interrogation que vous portez, Monique Dontal, je crois que dans le film que j'ai vu aussi, les femmes sont déterminées aussi par rapport à leur engagement. Et il est important de rappeler à nouveau qu'il faut évidemment lutter pour qu'il y ait une visibilité, une vraie visibilité des femmes de l'immigration, des femmes algériennes en particulier, parce que c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, au travers le documentaire que vous nous proposez à l'ITS, qui s'appelle « Les Algériennes en France, l'héritage », qui va être programmé le samedi 13 avril. Donc à l'ITS, qui est 40 rue de Malte, à Paris dans le 11e, c'est en métro République, et c'est à 14h30, et la projection sera suivie d'un débat. Un mot pour vous, Honora Belmokhtar, pour clôturer notre rencontre ce matin.
Je vais essayer peut-être de conclure de manière positive. C'est vrai qu'entre les anciennes générations, je parle par rapport à l'immigration, nos mamans, elles savaient pas lire, elles savaient pas écrire, elles avaient vécu le colonialisme. À l'indépendance, il y avait quand même un taux d'analphabétisme à 80%, à plus de 80% quand même. Donc on revient de très très loin. Et c'est vrai que maintenant, que ce soit en France ou en Algérie, même s'il y a encore des discriminations en France, beaucoup de femmes font des études, atteignent quand même des niveaux de diplôme, et elles ont toute leur place dans la société. Il faut juste bousculer les clichés, les idées reçues, mais fort heureusement, depuis le temps quand même, on a beaucoup évolué, et puis le combat continue. Voilà.
Merci Honora Belmokhtar, merci pour ces derniers mots. Merci à vous aussi, Monique Dontal, d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM. Je rappelle le titre de votre livre, de mai 68 au MLF, donc La lutte des femmes. Et dans cette lutte des femmes, il y a évidemment un chapitre consacré, un temps consacré aux femmes de l'immigration, parce que c'est aussi votre combat. Je rappelle, allez, encore une fois, parce qu'une fois n'est pas plusieurs fois, c'est bien. Les Algériennes en France, c'est le titre du film de Bouchra Azouz, Les Algériennes en France, l'héritage, et il va être projeté le samedi 13 avril à l'ITS. Il va être suivi d'un débat, 40 rue de Malte à Paris dans le 11e. C'est au métro République, et j'aurai le plaisir d'aller voir ce film et de participer au débat. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Merci,
se retrouve
Samia.
La semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix ou Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Merci.
Au revoir.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.